Bonjour à tous. Le Front National perd son président d'honneur et reconduit sa présidente, seule candidate à sa succession. Anne Fauquemberg suit les débats du congrès du FN à Lille. Une agence nationale pour l'éducation à l'information, proposition de Jérôme Bouvier, le président des Assises internationales du journalisme. Le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias, émet des doutes, précision dans un instant de Charlotte Baris. L'Alliance solaire internationale inaugurée à New Delhi par Emmanuel Macron et son hôte indien, comment ça marche ? De réponse, Sébastien Farcy. À la fin de cette édition, la face cachée du globe, Nabila Hamel nous emmène au Sri Lanka et à Mossoul, en Irak. 100% des suffrages exprimés sont allés à Marine Le Pen, seule candidate en lice, réélue ce matin à Lille à la tête du Front National pour quelques heures. Cette formation appartiendra en effet à l'histoire quand ce soir sera dévoilé le nouveau nom du parti. Ce point d'ailleurs fait débat. Seuls 52% des adhérents se sont déclarés favorables à l'abandon de cette appellation. Ce n'est là que l'une des divergences de fond. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Anne, vous avez assisté aux opérations de vote ce matin?
Oui, et c'est vrai, un vote sans surprise. Il y a eu à peine 3% de bulletins blancs ou nuls, selon le secrétaire général du FN, Steve Briwa, qui n'a toutefois pas précisé le nombre de suffrages exprimés. Pas de quoi déranger Marine Le Pen, qui entame donc son troisième mandat.
C'est un moment évidemment très important et toujours qui nous parle au cœur, quoi, qui est pour moi une émotion profonde. Parce que derrière ce vote, il y a une confiance, celle que vous m'accordez. Et cette confiance, bien entendu, je veux en être digne.
Alors cette unanimité, elle n'est pas du goût de tous. Parmi les voix discordantes, celle d'Éric Dillis, qui est à la tête du Front National à Lille. Il dénonce un verrouillage du parti par Marine Le Pen. Il faut savoir que 20% des adhérents n'ont pas voté les nouveaux statuts, notamment la suppression de la présidence d'honneur, ce n'est pas rien. Et puis le nouveau bureau national, à savoir la direction du parti, fait polémique, comme l'explique Jean-Richard Sulzer, conseiller régional dans les Hauts-de-France.
Je vais regarder la liste avec soin, déjà pour voir combien il y a de personnes. Il y a un certain nombre d'anciens Gudard et quelques proches, mais je vais essayer d'y voir plus clair, d'Alain Soral. Et pour moi, c'est rédhibitoire. Et déjà, étant donné la liste qui nous a été annoncée, puis comme on n'a pas pu en discuter, puisqu'il n'y a pas eu de suspension de séance demandée par Gollnisch, j'ai voté contre.
Un congrès plus difficile que prévu donc pour Marine Le Pen. Lors de son intervention surprise hier soir, même Steve Bannon, l'ex-conseiller stratégique de Donald Trump, a commencé sa conférence de presse en louant les talents de la grande absente de ce congrès, Marion Maréchal Le Pen. Sourire crispé de Marine Le Pen qui était à ses côtés.
Merci à vous Anne Fauquemberg ainsi qu'à Alexandre Abargel qui vous accompagne. Rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires à l'horizon 2020, selon Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, c'était l'une des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron. C'est un relevé qui nous lance un défi avec en exergue un quasi-plébiscite pour notre profession. Selon un sondage réalisé par Via Voice pour les Assises internationales du journalisme, en partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Média Monde et le Journal du Dimanche, 9 Français sur 10 estiment que le journalisme est utile. 84% des personnes interrogées pensent que le journalisme est indispensable en démocratie. Et ces mêmes personnes attendent en priorité, de nous autres, que nous vérifions les informations fausses, les rumeurs, que nous luttions en somme contre la désinformation, que nous vous aidions à vous prémunir des fake news, particulièrement vulnérables à ce chapitre, les enfants et les adolescents, d'où l'appel lancé par le président et fondateur des Assises internationales du journalisme, Jérôme Bouvier, appel à la création d'une agence nationale pour l'éducation à l'information. Bonjour Charlotte Baris.
Bonjour.
Charlotte, ce matin, le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias, a réagi.
Ce projet d'agence nationale voulu par Jérôme Bouvier permettrait d'aller plus loin que ce qui est en place. Pour le président de l'association Journalisme et Citoyenneté et fondateur des Assises du Journalisme, l'éducation à l'information ne peut pas être cantonnée à quelques heures de présence en classe, à quelques interventions de journalistes. Il faudrait donc, selon Jérôme Bouvier, un travail de long terme qui impliquerait tous les acteurs de la société civile.
Il y a aussi la nécessité de trouver une structure qui permettent de la co-construction entre l'État d'une part et les journalistes, les éditeurs, les médias au sens large. Mais au-delà de ça, c'est aussi de voir comment la société civile s'y implique. C'est pas que l'histoire des professeurs, c'est pas que l'histoire des journalistes. C'est les professeurs, c'est les journalistes, c'est les formateurs, c'est aussi, j'en ai pas parlé, tous les mouvements d'éducation populaire, les MJC. Donc ça nous semble très important de rassembler ça et aussi d'impliquer les familles.
En somme, une agence qui permettrait de co-construire l'éducation aux médias. Mais pour Serge Barbet, directeur du CLEMI, le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information qui travaille sur l'éducation aux médias depuis plus de 30 ans, il n'est pas utile de créer de toutes pièces une nouvelle structure.
Ça existe déjà. Concrètement, aujourd'hui, des choses sont très très organisées. Hein. On travaille, nous, sur des projets qui associent évidemment tous les ministères, et donc au-delà des ministères, le tissu associatif. Donc concrètement, moi je suis plutôt pour être concret, enfin et pragmatique, c'est-à-dire utiliser les outils dont nous disposons aujourd'hui plutôt que d'en créer de nouveaux.
Pas nécessaire donc pour Serge Barbet d'avoir une nouvelle agence. Il s'agit désormais de préciser la volonté et les annonces du gouvernement pour l'éducation à l'information.
Merci à vous Charlotte Baris. Un débat en vue, donc un débat parmi bien d'autres au sommaire des Assises internationales du journalisme de mercredi à samedi prochain à Tours. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un comité de responsables locaux de la Ghouta orientale est entré en négociation avec le régime syrien en vue d'évacuation de cette enclave pilonnée depuis le 18 février. Évacuation vers les localités de Dera et Idleb. Hier, du nucléaire, aujourd'hui du solaire. Le président français Emmanuel Macron inaugure à New Delhi, avec le Premier ministre indien, l'Alliance solaire internationale. Cette nouvelle organisation basée en Inde a pour mission de rassembler tous les pays qui se trouvent sous les tropiques et de servir de plateforme pour les aider à accéder à cette énergie solaire. Cette institution, inédite en son genre, doit toutefois faire ses preuves si elle veut attirer les capitaux privés nécessaires. Sébastien Farcy est à New Delhi.
L'un des grands principes de l'Alliance solaire est de regrouper les besoins des dizaines de pays membres afin de passer des commandes communes et de faire baisser leurs prix. C'est ce que l'Inde propose en lançant un appel d'offres pour 500 000 pompes à eau solaire couvrant les besoins de plusieurs pays asiatiques et africains. Démarche sensée mais difficile à appliquer, comme l'explique Vinay Rustagi, directeur du cabinet de consultants en énergie renouvelable Bridge to India.
Les standards et besoins techniques de chaque pays sont très différents, de même que la manière de faire des affaires et de gérer les chaînes d'approvisionnement. Donc les entreprises indiennes vont être réticentes à participer à des appels d'offres en faveur de différents pays d'Afrique ou d'Amérique latine.
Pour ce spécialiste, cette nouvelle alliance solaire peut par contre aider à améliorer la technologie des panneaux.
La plupart de cette technologie est développée en Occident et pour l'Occident, où il y a un climat froid et un air pur. Et donc ces panneaux sont moins performants en Inde, où l'air est pollué, poussiéreux et où il fait très chaud. Il faut donc que la technologie solaire soit adaptée aux pays africains et asiatiques et l'alliance solaire doit jouer un rôle dans cette innovation.
L'objectif affiché de l'Alliance est de lever 800 milliards d'euros de fonds d'ici à 2030 pour l'investissement et la recherche.
La Chine est capable de tous les défis, lance le ministre chinois du Commerce, et d'ajouter qu'une guerre commerciale avec les États-Unis serait désastreuse. Le président chinois est capable de toutes les audaces. Le Parlement vient d'accéder à sa demande, l'abolition de la limitation des mandats présidentiels. Xi Jinping, président à vie, président de tout, c'est son sobriquet à Pékin. Un scrutin justement sous la loupe chinoise. Près de 2 millions de Hongkongais, soit la moitié du corps électoral, votent aujourd'hui dans des élections législatives partielles dont l'enjeu est hautement symbolique. Il s'agit en effet de nommer les députés dans quatre sièges dont les élus en septembre 2016 ont été disqualifiés pour avoir mal prêté serment. Il s'agit de détracteurs de Pékin disposés à braver la tutelle. Florence de Changy est à Hong Kong.
Les quatre sièges qui doivent être pourvus aujourd'hui avaient tous été gagnés en septembre 2016 par des candidats pro-démocratie, suite à une intervention de Pékin imposant de nouvelles restrictions sur la manière de prêter serment. 6 députés ont été disqualifiés et l'opposition a perdu sa minorité de blocage au Letchko. L'enjeu pour l'opposition est donc aujourd'hui de récupérer ces sièges perdus ou au contraire de voir les partis pro-Pékin s'en emparer. Le gouvernement a compliqué la tâche à l'opposition en rejetant plusieurs candidatures sous le prétexte que les candidats n'étaient pas sincères dans leur patriotisme. C'est le cas de Agnès Chow, 21 ans, qui voulait se présenter pour le siège de l'île de Hong Kong, gagné en 2016 par Nathan Lowe, cofondateur du jeune parti d'opposition Demosisto. Agnès Chow a été disqualifiée. Certains estiment que cette élection partielle pourrait donc avoir valeur de référendum pour ou contre la Chine. Une faible participation ou une victoire des candidats pro-Pékin sera un signe de la résignation des Hongkongais face à la progressive et systématique immission de Pékin dans les affaires de Hong Kong. Si au contraire, ces quatre sièges étaient à nouveau gagnés par l'opposition, le message des Hongkongais à Pékin serait que l'intimidation ne marche pas.
Florence de Changi à Hong Kong. 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. En Égypte, où il entamait lundi sa première tournée à l'étranger, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a réservé ses critiques les plus virulentes à la Turquie, qualifiée de triangle du mal avec l'Iran et les islamistes radicaux. Le refroidissement dans les relations entre Riyad et Ankara a d'autres répercussions inattendues. Toutes les séries télévisées turques, très prisées dans l'ensemble du monde arabe, ont été déprogrammées en Arabie Saoudite par le puissant groupe audiovisuel saoudien NBC. Il n'y a pas de chaos à la Maison-Blanche, juste une énergie fantastique. Tout ce qui est raconté sur les départs n'est que fake news. Cette mise au point tweetée par Donald Trump mardi s'accompagne d'une surenchère en forme d'avertissement. Il y a encore des personnes que je souhaite changer. Kandy, ville touristique du Sri Lanka, vit depuis quelques jours un cycle de violence qui a poussé le gouvernement de Colombo à instaurer l'état d'urgence, une première depuis 7 ans. Eric Meyer, vous êtes professeur à l'INALCO et spécialiste du Sri Lanka. Aujourd'hui, nous n'assistons pas à une résurgence du vieux conflit tamoul-singalais. Les affrontements dans la ville de Kandy opposent des Singalais majoritairement bouddhistes aux musulmans. Est-ce que c'est nouveau? Comment expliquez-vous cette montée de fièvre entre ces deux communautés?
Alors écoutez, la tension a toujours existé dans cette région du pays entre les musulmans qui sont en majorité des commerçants et les bouddhistes, mais cette tension qui était gérée au quotidien a été multipliée par des activités politiques d'un certain nombre de groupements qui sont liés à des groupements identiques en Birmanie. L'association qui s'appelle la Bodhubala Sena, c'est-à-dire l'armée de la puissance bouddhique, est tout à fait liée à des organisations identiques de moines birmans. Par ailleurs, il y a probablement une volonté de la part de ces groupes d'affaiblir le gouvernement actuel, qui a cherché à rétablir une paix civile après ces années de violence qui avaient opposé les séparatistes tamouls au gouvernement et aux bouddhistes. Donc l'actuel Le gouvernement est affaibli, en particulier par ces milieux qui cherchent à exploiter les tensions de façon à le faire tomber.
Est-ce que l'on n'est pas aussi dans un cas de radicalisation des communautés musulmanes et bouddhistes du Sri Lanka?
La communauté musulmane n'est pas extrémiste en ce sens qu'il n'y a pas de volonté d'imposer sa vision à la société. C'est une communauté qui représente 8 à 9% de la population, mais elle est l'objet de beaucoup d'aigreurs. Enfin, disons que les bouddhistes considèrent qu'elle profite de la situation économique. Donc il y a toujours eu cette hostilité vis-à-vis des musulmans. Il se trouve que les musulmans sont devenus quand même plus visibles depuis qu'un certain nombre d'entre eux sont allés travailler dans les pays du Moyen-Orient et sont revenus des pays du Golfe avec une vision beaucoup plus militante de l'islam. Ceci dit, c'est quand même essentiellement à partir du milieu de ces moines bouddhistes militants, qui sont d'ailleurs aussi militants contre les églises chrétiennes pentecôtistes qui se sont développés à Sri Lanka, qu'il faut voir la source de cette violence.
Eric Meyer, professeur à l'INALCO. Et puis, cette histoire rapportée par l'AFP, celle d'un prêtre irakien qui a réussi il y a 3 ans à sauver quelques trésors culturels promis au feu par les djihadistes de l'organisation État islamique lorsqu'ils ont investi Mossoul et ses alentours. Il avait alors réussi à rapatrier certaines pièces vers le Kurdistan. Aujourd'hui, Eric Biegala, il forme des jeunes à protéger le patrimoine de l'humanité dans cette région.
On ne peut pas sauver un arbre si on ne sauve pas ses racines, et un homme sans culture est un homme mort. Celui qui parle ainsi est le père Najib Mikael. En 2004, lorsque les premières attaques contre les églises irakiennes se sont multipliées, il faisait partie des quelques prêtres irakiens qui ont pensé à déménager leurs archives à Karakoche. 10 ans plus tard, en juillet 2014, ce sont les djihadistes de l'État islamique qui sont aux portes de cette ville chrétienne à 30 km de Mossoul. Le père dominicain a une nouvelle prémonition et décide de tout déménager 40 km plus à l'est, au Kurdistan. Il entasse les manuscrits, en araméen, en arabe et en arménien. Dès que je voyais quelqu'un les mains vides, je lui donnais donné ses trésors culturels et je lui demandais de les emmener au Kurdistan. « J'ai tout retrouvé », dit-il fièrement aujourd'hui. Mais ce dont il est le plus fier, c'est d'avoir formé des dizaines de déplacés, dont des musulmans, à protéger leur héritage culturel, notamment en numérisant les copies, au cas où quelque chose arriverait de nouveau.
Une école élémentaire privée de Tokyo fait polémique, notamment sur les réseaux sociaux et même dans les milieux politiques, depuis qu'elle a choisi d'introduire, dès la rentrée d'avril, des uniformes de marque Armani pour ses élèves. L'ensemble pourrait aller jusqu'à 600 euros. La direction de l'établissement explique qu'il s'agit de donner une image plus adaptée à ce quartier qui abrite de nombreuses boutiques de luxe, mais plusieurs élèves ont été importunés et l'école a dû engager des vigiles sur le chemin qu'ils empruntent. Un comble dans un Japon qui connaît très peu d'insécurité. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Hamel. À dimanche prochain, les grandes lignes météo de l'après-midi, des pluies soutenues des Cévennes à la Provence et au sud des Alpes, temps agité sur le nord-ouest. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili, Élise Le à la technique.